que ça va nous permettre de poursuivre la réflexion. Le titre est... Il y a un titre. Vous avez choisi alors. Une approche critique de la psychiatrie, témoignage. Mais ce que je crois très intéressant, on va pouvoir se dire maintenant, c'est que ce soit Alain ou Roger, c'est aussi un parcours à travers toute cette époque. Donc c'est pas seulement un propos sur le présent, mais c'est un propos sur le présent éclairé par tout le développement de cette histoire. Donc je vous donne la parole. Et puis, on aura le moment de débat qu'on a annoncé tout à l'heure. Je vais aussi faire circuler dans le combien, parce que je les avais posées sur les chaises, mais ça n'a pas été très efficace. Ces feuilles pour le référendum sur la loi sur l'asile, si vous voulez les signer, vous mettez juste une...
Comme ça, on peut faire circuler un peu, si vous n'avez pas encore signé. Il faut faire attention avec les communes, oui, mettez un nom de commune.
Je vous donne la parole.
Merci Charles. Je vais démarrer. Merci aux archives contestataires de faire ce boulot militant dont je me suis rendu compte qu'il était utile, nécessaire et indispensable. Sur toute une série d'aspects des luttes sociales à Genève, ou plus largement, ou des engagements dans différents domaines. On va donner une place au débat, à la discussion, parce que je crois que c'est important. Donc, on a dit approche critique de la psychiatrie, témoignage. On va donner quelques éléments de notre parcours, moi et Roger. De comment on a traversé certaines histoires de la psychiatrie, petites et grandes. Et c'est évident qu'on ne va pas pouvoir être exhaustif. Donc j'ai fait un choix arbitraire. Et puis après, ce qui est important, avec l'exposé de Virginie et de Rolf, c'est d'essayer de voir toutes les articulations et où on en est maintenant. Rolf disait, je suis très content qu'il y ait une fois un débat sur... c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de débat, il faut le dire, public, il y a eu des interventions diverses et multiples, mais vraiment, l'aborder en tant que tel, aujourd'hui, où on en est par rapport à l'histoire, c'est important. Donc moi, j'ai une formation de ergothérapeute, je me considère comme un militant associatif de base, que ce soit les quartiers, que ce soit l'armée ou la santé. J'ai toujours été dans des mouvements de base et c'est ça qui m'intéresse. Et puis, avec Roger, on se rencontre dans les années 70. Lui est intéressé à envisager une formation d'ergothérapeute. Moi, je suis déjà ergothérapeute auprès du premier centre de toxicomanes, le centre des Hollandes. Je crée avec une nouvelle équipe un accueil pour des personnes qui ont des dépendances et on se rencontre là. Avant, je vis en 67, c'est ma première expérience à Bel Air, dans le pavillon 6 hommes. Je fais un mois comme aide infirmier pour essayer de voir qu'est-ce que c'est que ce milieu. J'ai l'idée de faire un travail dans ce domaine. Et je me trouve au 6 hommes, premier étage, et je fais l'expérience de la violence institutionnelle de manière extrêmement brutale. Et se révèle à moi cette contradiction que des gens après... des militants, des chercheurs, des intellectuels ont mis en évidence dans ce moment particulier de l'histoire de mai 68. Mais mai 68, c'est 20 ans après et 20 ans avant et après. Hein. Et encore aujourd'hui, bien sûr, on est nourri de cette radicalité de mai 68 qui questionnait, qui mettait en question les pouvoirs. Hein. Mais pour moi, mai 68, c'est la remise en question des pouvoirs institutionnels, la famille, les rapports hommes-femmes, l'armée, l'école, la psychiatrie, la santé, etc. C'est cette confrontation-là qu'on va vivre. Et donc, je me retrouve le premier jour dans une immense salle au premier étage avec 15 patients hommes à moitié nue, avec deux tables accrochées au sol, avec des tinettes ouvertes, et je passe toute la journée avec ces personnes dans une condition incroyable. À midi, on leur donne à manger du porridge. À 5 heures du soir, on les nourrit et puis on les met dans leur chambre fermée, soit dortoir, sa chambre, et on les attache. Et les infirmiers me disent, bon voilà, c'est quand même plus simple les attacher parce qu'il y a quelques patients qui jouent avec leur excrément, qui badigeonnent les murs avec leur excrément, donc on les attache avec aux chevilles et aux poignets, et ils passent la nuit comme ça, et le lendemain, on va les détacher, on les prend, et on les met dans cette salle, et ils passent leur journée. Et on est à l'époque moderne de la psychiatrie. Le professeur, c'est Algeria Guerra, qui est un type qui vient de la guerre, de la résistance à Franco. C'est un anarchiste, c'est un type qui fait la première ouverture de l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire qui introduit les nouvelles thérapies médicamenteuses, qui introduit l'ergothérapie, la sociothérapie, qui ouvre les barreaux, qui enlève les barreaux des fenêtres. Hein. Y a l'acte, on voit, il y a des photos d'ailleurs, dans un bouquin que Brulart a fait pour les archives, il y a des photos où on voit un type des services généraux qui décèle les barreaux des pavillons de Bel Air. Donc il y a une première ouverture qui va s'avérer problématique pour nous, bien entendu, parce que lui dit, écoutez, moi j'ai fait, quand on va lui le questionner sur ces violences institutionnelles qu'on vit, hein, c'est l'époque des traitements de choc ou des traitements à haut risque imposés, c'est l'époque où les gens peuvent vivre dans ces lieux des années, hein, ils sont, on a des jeunes, on a des anciens qui ont 40 ans, 50 ans, qui sont là depuis 20, 30 ans. Bref, c'est le lieu d'enfermement par excellence, mais c'est un moment de tension très très forte et très très dur. Et voilà, moi, je vis cette expérience-là, et donc je vais me mobiliser collectivement, parce que c'est que par le lien collectif et l'expérience particulière que peuvent à un moment donné émerger une réflexion et une action politique, une action institutionnelle pour essayer de modifier, de transformer ce vécu-là de centaines de gens, de milliers de gens qui passent par l'institution psychiatrique. À partir de là, aujourd'hui, la question de l'hospitalisation non volontaire, la question du traitement forcé, la question, si vous voulez, la manière dont est traitée les personnes est toujours une violence. Quels que soient les changements qu'il y a eu au niveau de l'histoire, je pense qu'il y a eu de réels changements, je pense qu'il y a eu des réelles avancées, il n'y a plus de patients qui sont battus. Il n'y a plus de basse. Ben, j'espère, j'ai plus entendu. Le dernier acte de violence que j'ai à l'époque entendu dans les années 90, c'était un chef infirmier qui avait lancé un verre d'eau à un patient, et tout de suite, il y a eu une réaction. Ce chef infirmier s'est fait destituer, s'est fait déplacer. C'est moi, mon expérience, c'est le dernier acte de violence qui a été que j'ai connu, puisqu'on est monté tout de suite avec des membres du syndicat plus d'autres personnes voir Second et expliquer cette histoire, et Second a pris des mesures par rapport à ce type de comportement. Donc on voit qu'il y a
c'est
eu quand même
c'est pas comme au grand conseil.
Pardon,
c'est pas comme au grand conseil.
On voit qu'il y a eu quand même une évolution sur les pratiques les plus insupportables. Le deuxième aspect du témoignage, c'est l'histoire des Dames B. C'est la tentative d'hospitalisation de deux commerçantes dans le quartier de Saint-Gervais à la suite d'une résistance de ces commerçantes par rapport à leur commerce, à leur travail. On a fait une vidéo. Quelqu'un disait il n'y a pas de, il y a pas de, de témoignages de photos et vidéos. Il y en a quelques-unes. Il en reste, je vais les amener au fur et à mesure. Puisqu'avec Roger, on a amené un certain nombre de documents. Il nous en reste encore. On les amènera.
Le docteur Hornefer était parti sous VU. Il avait essayé de.
C'était le docteur Hornefer qui avait fait un examen psychiatrique dans le local de ces. De ces commerçants. Ce sont des commerçants qui résistaient au délogement. Et le contexte global était un contexte de transformation d'un quartier pour en faire un quartier, de spéculation. C'était la construction de la placette. On avait détruit, si vous voulez, le cœur du quartier de Saint-Gervais, qui était quand même un symbole aussi à Genève très important au niveau de l'histoire. Et ces commerçants résistaient au délogement. Et elles avaient passé par toutes les instances de conciliation au niveau de la SOCA. C'était Grobet qui défendait ces commerçantes. Et elles avaient passé devant toutes les instances des églises protestantes, catholiques, juives, parce qu'on essayait, elles étaient juives, elles vivaient, elles avaient des liens avec la communauté juive, et on avait essayé de, par tous les moyens, de leur dire, écoutez, on va vous donner un commerce juste à 20 mètres, on vous offre un commerce beaucoup plus beau que vous avez. Elle disait non, 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 non. C'était une résistance incroyable où les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi elle résistait. Et un jour, c'était la mère et la fille, et un jour la fille a dit, si vous continuez, je vais me descendre. Et ça a été le tilt, le procureur qui était là, il a dit, ah, là il y a un risque de suicide de cette femme. Donc il a envoyé le médecin du conseil de soins psychiatriques, dans le commerce, et il y a un dialogue incroyable. Dans le témoignage vidéo que j'ai fait avec Léo Kahneman, ces femmes expliquent la relation avec ce médecin, qui leur dit, vous devez absolument venir expliquer votre situation. Je vais faire un rapport. Si vous ne venez pas à mon cabinet, je vais faire un rapport terrible contre vous, etc. etc. Et 15 jours après, il y a la police qui arrive au domicile pour les prendre, prise de corps. L'ambulance était devant leur commerce. Elles descendent de leur lieu d'habitation jusqu'au commerce. Et dans cette descente, elles étaient entourées de deux policiers. Elles s'engouffrent dans une cabine téléphonique et elles téléphonent à Grobet. La mère dit, t'as 20 centimes? Oui, j'ai 20 centimes. Donne-les-moi, je vais téléphoner à Grobet. Grobet leur dit, bougez pas, allez devant votre commerce, on arrive. Il y a un attroupement devant le commerce des Dames B, il y a les policiers du quartier, il y a les commerçants, il y a Grobet, il y a l'ambulance, il y a les policiers qui empêchent la prise de corps de ces dames et évitent l'hospitalisation non volontaire, ce qui fait la une des journaux. C'est un des trois événements qui a défrayé la chronique à l'époque et qui a sensibilisé la population, les professionnels, à toute une série de pratiques, problématiques, difficiles, dures, en guillemets, alors c'était pas la pratique généralisée, bien entendu, mais quand même, ça montrait le pouvoir, si vous voulez, de toutes ces instances juridiques, médicales, et puis aussi le contexte dans lequel était inscrite cette histoire. Alors, je ne vais pas vous raconter le contexte parce qu'il est passionnant, parce qu'il faut comprendre pourquoi elle ne voulait pas être délogée. C'est une histoire depuis le début du siècle, depuis 1900, avec l'histoire du père, et c'est toute l'histoire de Saint-Gervais qui s'inscrit dans cette résistance absolument, en guillemets, irrationnelle, où elles ne veulent pas se déloger. Ça, c'est vraiment aussi ce qui, à un moment donné, nous interpelle. Et on décide, parce qu'on lit des journaux, on voit qu'il y a une effervescence en Europe, on décide avec Roger de créer le réseau roman d'alternatives à la psychiatrie. Ça veut dire être en contact avec des expériences italiennes, françaises, anglaises, belges, hollandaises, espagnoles, qui tentent de mettre en pratique des nouvelles pratiques au niveau du soin au niveau de l'accueil, au niveau de l'ensemble des problématiques là, qu'on discute aujourd'hui. Donc, on va en Italie, on vit la fermeture de l'hôpital de Trieste avec un certain nombre de militants, de patients, etc. On va en Hollande, on va en France, à Paris, vivre le réseau, etc. Il y a vraiment une vraie effervescence, discussion, mise en question de la structure psychiatrique traditionnelle et une critique aussi du secteur. Hein. Il y a tout un débat sur la question du secteur psychiatrique, qui est vraiment la nouvelle avancée à l'époque où on essaye de diminuer le nombre de lits psychiatriques au profit d'un accueil dans la communauté médico-psychiatrique et sociale. Il y a tout un débat sur qu'est-ce que ça veut dire, cette extension en fait de la psychiatrie sur le secteur. Voilà.
Bon, c'est là que ça fait le lien avec les patients.
Voilà, alors c'était mon dernier, ouais. C'est ma dernière intervention. Le dernier réseau vraiment d'alternative à psychiatrie a lieu à Genève, avec des figures telles que Guattari, telles que Rotelli, le successeur de Basaglia, telles que El Khaim,
oui,
Robert Castel, etc. Et c'est un week-end, c'est à la maison de quartier de la Jonction. On fait un travail d'atelier, de débat, etc. Et à la fin de ce week-end, sur le trottoir, il y a Alain, dont on a parlé. Il y a Alain avec un copain, Bartol Birenz de Haan, dont Roger parlera, enfin, l'expérience de la communauté thérapeutique, moi et Roger. Et ils nous interpellent. Ils nous disent maintenant, ça suffit. Il faut créer une organisation pour défendre, développer, réfléchir, pratiquer la question des droits des patients, mais dans le sens large du terme, hein, pas seulement les droits juridiques et les droits légaux. Effectivement, ça ne suffit pas, je veux dire, à promouvoir des transformations et des changements dans ce domaine par rapport à ce que vivent les personnes, mais avoir une vraie réflexion ouverte. Et ils nous interpellent en disant « Vous devez vous engager dans un espace associatif » et on décide ensemble de créer la DUPSI, l'Association pour les droits des usagers de la psychiatrie.
Ça n'a pas duré longtemps, la DUPSI.
Ça a duré le temps que ça a duré. Je crois que c'était un travail tout à fait passionnant. Donc, dans le débat, on pourra vous expliquer la pratique, des éléments de pratique. Mais voilà, c'est mon témoignage. Je m'arrête là et Roger reprend.
Juste pour dire une dernière chose sur cet événement, quand Alain nous interpelle, ce qu'il avance comme argument très fort, c'est qu'il nous dit, c'est sûr que si on organise simplement un groupe entre patients, on se fera tout le temps écraser, on se fera stigmatiser, on va se confronter à l'institution, un jour on ne sera pas bien, on va se faire hospitaliser et on va se faire cogner comme jamais. Conclusion, il en est mort. Donc il avait bien raison. Donc, on s'engage sur cette idée-là, avec évidemment tout ce que Rolf a pu laisser entendre sur les luttes d'identité, sur qui prend la parole, qui défend, qui se montre, qui gère le pouvoir, qui en a peur. Et évidemment, la DUPSI a traversé tout ça. Moi, à ce moment-là, je rentre en psychiatrie. Donc, je ne rencontre pas les bonhommes d'Alain, ils ont disparu depuis longtemps. Mais je rencontre une autre psychiatrie, une psychiatrie de secteur, une psychiatrie de petit chef. Rolf l'a bien dit, l'émancipation de la psychiatrie se fait dans une lutte de pouvoir. La sectorisation était un moyen de gestion de la psychiatrie pour ne pas rencontrer des combats de chefs, l'un tenant d'une discipline, l'autre tenant d'une autre discipline. Ce qui fait qu'on a eu des périodes où quatre secteurs représentaient quatre disciplines. Ce qui, pour les patients, était un petit peu embêtant, parce que certains qui voulaient être pris en charge par des thérapies de famille, qui se déroulaient au secteur de Carouge et qui habitaient du Paquis, Tintin. Au Paquis, c'est pas ce qu'on fait. Alors, j'ai vécu un peu ça. Je me trouve à la clinique. Je travaille à la clinique de Bel Air quand tous ces événements se déroulent. Et
Alors, c'est difficile de faire quelque chose qui soit un fil comme ça, mais il y a plusieurs événements, mais les événements se rattachent parfois ou pas du tout. Mais comme disait Virginie, c'est un moment incroyable qui est porteur de lutte. Il y a des gains qui se font sur plusieurs terrains, qui se reperdent, qui se regagnent, mais il y a plein de luttes qui se développent, et ces luttes, elles osent, ce qui avant ne se faisait pas trop, mais après l'expérience et la démonstration de mai 68, les luttes, je pense, osent passer à des moments critiques où elles considèrent qu'elles ne sont vraiment pas entendues, ces luttes, à passer dans la radicalité. Alors on en a connu qui sont tragiques, et puis d'autres qui ont été porteuses de fractures déterminantes pour pas qu'on revienne en arrière. Alors la psychiatrie, elle connaît ça aussi. Pendant ces années de l'adultie, il se trouve qu'on est par moment à se dire « c'est le moment d'être radical, sinon ça ne va pas marcher ». Alors, la mort d'Alain, c'est vraiment la radicalité de l'institution, et c'est la réponse à ce mouvement, à ces espérances, à cette audace que tout d'un coup les patients ont de vouloir s'organiser, de se faire entendre et de revendiquer des choses. Il est mort d'une cure de sommeil où il ne voulait pas dormir. Donc on a augmenté les doses jusqu'à qu'il soit obligé de dormir. Et il en est mort. Il est de résistance. Donc c'est un truc énorme. Donc c'était vraiment... Il a porté cette histoire jusqu'à la fin. Et puis, par exemple, je vous dis comme ça maintenant, les exemples me viennent les uns après les autres. Cette radicalité, pour d'autres mouvements, elle a aussi eu des échos favorables dans les espaces où ne s'exerçait pas la radicalité. L'exemple des luttes antinucléaires, par exemple, la radicalité où il y a eu, à certains endroits, des actes qui ont définitivement mis fin à des projets de construction de centrales nucléaires, ont eu l'adhésion à peu près de toute la population. Et je pense que sur la psychiatrie aussi, le fait que des groupes aient pris l'audace, l'initiative d'avoir des ruptures radicales, a fait que, dans la population aussi, silencieusement, une adhésion s'est faite. L'exemple le plus brillant, c'est les électrochocs qu'on donne à Anna, qui se fait transférer de l'hôpital de Berne à l'hôpital de Bel Air, tout ça dans le plus grand secret, sa famille ne le sait pas. Le lendemain matin, c'est Tissot qui la voit, il dit des électrochocs, elle ne comprend rien. Enfin, c'est un truc assez incroyable. Et deux événements se déroulent là-dessus. Un groupe se constitue, on est nombreux à y avoir fait partie, où on s'est dit, maintenant on va aller lui demander ce qu'elle veut, et on va réaliser ce qu'elle veut. Donc, elle est sortie. Elle est sortie parce qu'elle a reçu une clé pour ouvrir la fenêtre de sa cellule, sinon elle n'aurait pas pu sortir. Cette clé venait d'un pavillon de la clinique de Bel Air. Donc, il y avait des connivences, il y avait des choses qui se déroulaient. Sur les électrochocs, il y a eu 2-3 communiqués de presse, il y a eu 2-3 interventions véhémentes de la part du mouvement sur la brutalité de ce traitement. Mais à un moment donné, un nouveau groupe se constitue et se dit « Mais la meilleure chose pour qu'on n'en parle plus, c'est qu'on les fauche. » Et c'est ce qui s'est passé. Mais pour ce faire, il fallait bien rentrer dans l'institution et puis ouvrir une porte et les prendre. Donc, c'est là qu'on voit comment largement des décisions radicales peuvent être perméables par des personnes qui ne le sont pas. C'est bien quelqu'un de l'intérieur qui s'est trouvé là, qui faisait la garde la nuit, qui a donné la clé pour qu'on puisse aller chercher ses électrochocs. Elle a pris cette responsabilité-là. On ne l'a jamais vue dans le mouvement, c'est une infirmière de la clinique. À plusieurs reprises, des choses comme ça se sont passées entre un lien intérieur et extérieur. Ils ont été brûlés, ces électrochocs, dans les bois de Chancy, une conférence de presse avec des cagoules, un peu à la course, comme ça. Et puis ils ont été brûlés, et depuis, il n'y en a plus à la clinique. Moi, je travaille à la clinique, en même temps que je milite à l'extérieur dans toutes ces actions, et je vois la perméabilité qu'il y a. Le professeur Tissot, évidemment, se sent un petit peu coincé,
À un moment donné, il décide de publier un bulletin et il répand ce bulletin dans la clinique à l'ensemble du personnel où il donne ses consignes idéologiques, hiérarchiques, etc. Et il se fait fort de faire ce bulletin mensuellement jusqu'à la postérité, c'est-à-dire sa retraite. Mais avec un petit groupe, on se dit que peut-être un bulletin ne suffit pas, puis qu'il faut en faire un autre. Alors le numéro 2 a été sorti juste la veille du sien, copie conforme de ce qu'il faisait, où dedans, le professeur Tissot avouait que finalement, ces mouvements d'extérieur étaient porteurs d'une nouveauté à laquelle il fallait adhérer. Et comme on avait vraiment beaucoup de connivence à l'intérieur, on a eu le fichier de tout le personnel, ce qu'ils font. Ils l'ont reçu comme si l'institution leur avait envoyé ce document. Donc ça faisait des discussions incroyables. Et il y avait des ouvertures. Berens de Haan décide avec l'équipe des Lilas de développer dans ce pavillon le concept de la communauté thérapeutique avec les moyens existants. Donc ça s'inspirait, ça n'était pas vraiment... Mais quand même, il fait une rupture radicale sur comment on accueille les gens, on les soigne, quelles paroles ils ont, etc. Tissot, évidemment, est toujours de plus en plus gêné. Donc, Rolf vous a raconté. Il fait défiler tous les médecins qui travaillent dans la clinique. Et ils doivent jurer sur la Bible des médecins.
De Henri Hay, qui est le psychiatre à l'époque. C'est un manuel de psychopathologie. Et il ouvre
la page
sur l'ensemble des traitements.
Ouais. Enfin, en tout cas,
il demande à ce que les médecins adhèrent à l'ensemble.
À tous les traitements qu'elle a.
Ouais, dont.
Et il spécifie bien à chaque fois, dont les électrochocs. Ces deux médecins disent non. Ça, c'est l'événement qui met fin à ça. Moi, je travaille dans la clinique à ce moment-là. Je peux vous dire que, évidemment, les infirmiers. C'est toute l'histoire des luttes, mais à mal ceux qui sont en bas de la hiérarchie. La prison, c'est les gardiens, l'hôpital psychiatrique, c'est les infirmiers, enfin, c'est tous les espaces de répression, de contention, les premiers visés, puisqu'ils sont tout le temps en lien avec soit les prisonniers, soit avec les patients, c'est eux qui se ramassent la première critique. Eh bien, ils tournaient autour des lilas, mais vraiment comme des abeilles, quoi. Ils n'étaient pas là pour dire arrêtez de faire ça, c'est des conneries, on doit bosser comme nous, on bosse. Pas du tout, alors que j'y étais complètement. Donc ils étaient bien intéressés, ils cherchaient à parler avec les infirmiers qui travaillaient là-bas. Donc il y avait quand même la possibilité d'une ouverture. Évidemment, il fallait des conditions énormes pour qu'elles se passent. Mais elles ne se sont pas passées, Tissot s'est arrangé pour que ça se passe autrement. Puis il y a eu le décès d'Alain. Le mouvement s'est mobilisé très fort, la DUPSI, on s'est tous très fort mobilisés. On a fait un dossier. Ce dossier était impossible à faire sans, je le répète encore, la connivence du personnel intérieur, puisqu'on a réussi à avoir le CARDEX, qui est l'ordre du jour des médications et des visites dans la cellule. D'Alain, donc on a pu le photocopier, on a eu les documents, on a eu les doses, je voulais aller faire des photos de la cellule dans laquelle il était, ça a raté, mais une infirmière m'a dit passe-moi ton appareil, je vais te les faire, donc on a aussi eu les photos, donc il y avait vraiment des choses possibles, la psychiatrie avait vraiment exagéré, Tissot avait exagéré, il tenait le cap, il n'a pas voulu lâcher. On est allé voir des professeurs, comme a dit Rolf, qui nous ont fait des rapports en disant c'est des doses létales. Il l'a tué, mais après ils n'ont pas voulu témoigner. Et finalement, il y a eu un non-lieu. Mais le mouvement était quand même un petit peu en ébullition. Et pour se faire plaisir, un hasard terrible a fait que la voiture de M. Tissot au carrefour de Rive, où il allait faire sa psychanalyse, quand il est sorti, il avait brûlé. Voilà. Enfin, donc, on est quand même... Moi, ça m'éclaire beaucoup sur toute une question d'engagement. Et je pense que Rolf a raison, la loi ne suffit vraiment pas. Une des premières choses qui s'est passée dans l'institution psychiatrique, quand
la loi donne le droit au patient de choisir son traitement ou de refuser celui qu'on leur propose. Les premiers témoignages qu'on a eus à l'ARCAD, c'est que les médecins ont répondu « Bon, c'est dommage, j'ai rien d'autre pour vous. » Et puis ils sont partis, puis ils ont laissé dans leur souffrance. Puis ils sont revenus le lendemain, « Vous voulez toujours pas ce traitement ?»« Ah bon, c'est dommage. » Puis la souffrance devient tellement grande, la situation se dégrade, que finalement son statut change, il se retrouve dans une chambre isolée. Enfin, c'était quand même assez, assez catastrophique. Donc une loi qui stipule simplement les droits d'une communauté précise et qui n'impose pas aux personnes qui ont la charge de cette communauté de la respecter et d'en être créatif, alors elle vaut pas les peines. Je pense. Ça me fait penser à la 5e révision de l'AI, où nous, on lutte pour que dans la loi, l'économie soit soumise à l'obligation de prendre des personnes en capacité de travail réduite. Dès qu'elle a 20 ou 25 personnes engagées, ils montent au palais fédéral, ils font un bin. Pas possible, ils disent, on ne veut pas être obligé de le faire, on veut simplement vous dire qu'on est solidaire et qu'on le fera. On retire ça de la 5e révision. Il y a combien de personnes qui ont été prises depuis la 5e révision? Je crois qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Il y en a beaucoup plus qui ont été internés à la clinique de Bélair que de personnes qui ont été intégrées dans le monde du travail. Donc si on n'oblige pas la partie concernée, donc le combat est de loin pas fini. Enfin, voilà. Et pour les médicaments, c'est un peu la même chose. C'est vrai que l'idée nous a parcouru de mettre feu à la pharmacie, mais c'est un peu énorme quand même. Mais c'est pour vous dire qu'il faut, je pense aussi que les luttes extérieures ne peuvent pas se faire durablement, enfin, ne peuvent pas gagner du terrain s'il n'y a pas des liens avec les personnes qui travaillent à l'intérieur. Ça me paraît assez indispensable. Le fait aussi de cette époque-là, c'est que la presse a mis très longtemps à suivre. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les luttes qu'on menait étaient relativement transcrites négativement. La plus belle expérience, et dommage que cette page n'est pas dans les archives contestataires, il y a eu une conférence de presse organisée par le réseau, par la DUPSI, et puis les médecins progressistes s'associent à cette conférence de presse. C'était là, Myrène c'était là, et c'est une conférence de presse assez choc, quoi, sur des médecins s'engagent pour critiquer et condamner des pratiques médicales dans l'institution psychiatrique. Le journaliste qui est là, c'est Jean-Noël Queneau, qui tentait toujours le mieux possible de retranscrire et de porter ce qu'on pouvait revendiquer, ce que l'on pouvait témoigner. Il fait un article qui fait une demi-page dans la Tribune de Genève. Il nous téléphone, j'ai fait une demi-page dans la Tribune de Genève. Il dit, ok, merci Jean-Noël, c'est super sympa. Le lendemain, on va acheter la Tribune et la demi-page supérieure, elle est blanche. C'était l'article de Jean-Noël Poirot, blanc, censuré. Et tout en gros, c'était marqué censuré. Et la demi-page inférieure, c'était le point de vue du rédacteur en chef, Georges-Henri Martin, à l'époque, qui dégueule sur les médecins progressistes, qui menace même de prison. Un médecin n'a pas le droit de prendre une telle position. Donc c'est pour vous dire que les choses n'étaient pas... Je suis un petit peu déçu parce que dans l'institution, on avait mis Tissot à sa fin, puis il n'est pas là. Mais non, c'est Tissot avec une passion, mais il y en avait d'autres qui étaient Tissot à sa fin.
Il était destitué, Tissot.
Le mouvement était suffisamment fort pour. Quand on a fait la manifestation suite au décès d'Alain, la DUPSI, tous ses amis, tout ce mouvement, on décide d'aller faire un recueillement à la clinique psychiatrique de Bel Air. La direction de la police, elle est ferme, elle dit c'est exclu, c'est un terrain privé, vous ne rentrerez pas, la manifestation s'arrêtera au portail de la clinique.
Ils n'avaient rien dit.
De Bel Air, si, je peux te sortir le document. Ah. Oui. Et quand on est arrivé devant le portail, on est rentré, et on nous a laissé rentrer. Mais là, elle était autorisée jusqu'au portail de la clinique. Donc, il y avait vraiment une certaine force. Il y avait beaucoup de répression quand même. Ce qui fait que les travailleurs, ils ne sont pas... Enfin, on ne peut pas jouer sa place de travail comme ça. C'est... Bon, fait une petite pique comme ça pour les médecins. Bertold a pu se mettre à son compte, mais on a bien fait, ça fait difficile. Enfin, voilà. Mais on a toujours eu des liens avec les personnes à l'intérieur, des liens vraiment forts. La secrétaire de direction du docteur Tissot, figurez-vous que tous les matins, elle ouvrait le courrier qu'il recevait, tout le courrier du département, des secteurs, etc. Puis elle m'a lancé un coup de fil et elle me disait « Roger, c'est maintenant que je pars boire mon café. » Et elle laissait son bureau ouvert, je pouvais aller photocopier tout ce qui était intéressant. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore possible, mais si on ne travaille pas à l'intérieur, je pense qu'on gagne faiblement à l'extérieur.
Je terminerai sur une conviction qu'on a depuis ces années jusqu'à maintenant, c'est qu'on est convaincu que les groupes de patients doivent être soutenus. C'est-à-dire, il y a 4 groupes de patients qui sont constitués depuis la DIPSI, de manière autonome, de manière indépendante, avec chacun ses caractéristiques, avec chacun son histoire, avec chacun sa manière d'approcher leur difficultés, leur créativité, leur solidarité, leur manière de travailler. Mais je pense qu'aujourd'hui, le message que je pourrais donner, c'est qu'il faut soutenir ces groupes de personnes qui essayent de faire valoir leur point de vue, de faire valoir leur existence dans la cité. Et ils ont beaucoup de peine à le faire, mais voilà, c'est notre conviction aujourd'hui par rapport à la DUPSI s'est créée dans un mélange, si vous voulez, professionnel, patient, ami, juriste, etc. Aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine de la lutte continue d'une certaine manière, aussi grâce à ces personnes qui s'engagent, qui prennent des risques et qui discutent de tout ce que Rolf a mis en évidence, la question des traitements, la question de l'hospitalisation, c'est toujours d'actualité et il faut toujours questionner ces contradictions, ces enjeux-là, et ça vaut la peine de se battre avec eux, en face d'eux.
Mais sur quelle base la mixité qu'il y a eu à l'intérieur de la DUPSI, apparemment, si je comprends ce que tu dis, elle n'est pas de 16, elle est plus de 16 hommes.
Non.
Est-ce qu'il y a une explication à ça? Est-ce que ça veut. Ça, ce serait ma première question. Et puis la deuxième, c'est est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur la conjoncture dans laquelle on est aujourd'hui? J'évoquais ça un petit peu en aparté tout à l'heure, mais je crois que c'est important. Si on peut essayer de boucler la boucle, on a eu des phrases, il y a eu des phrases sur plus il y a de droits juridiques, moins il y a de droits réels. Qu'est-ce que. Sur ces deux choses.
Sur la conjoncture, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans des processus de régression sur certains aspects avec les 4e, 5e et 6e révisions de l'AI. On a une espèce d'attaque. Alors là, il faudrait faire, si vous voulez, une analyse des conditions sociales et économiques dans lesquelles on vit. Ma position, c'est que les groupes populistes et les groupes d'extrême droite utilisent des groupes de population vulnérables. Au début, c'était les émigrés, les réfugiés, etc. L'UDC a choisi des cibles qui sont élargies. Et une des cibles de l'UDC et des mouvements populistes, ce sont des groupes de population en grande précarité, qui sont très vulnérables, c'est-à-dire qu'ils ont de la difficulté à se défendre, et qui mettent en évidence, sous le couvert de l'abus, donc sous le couvert que ces gens-là profitent de la de mesures de couverture sociale, pour montrer que il y a des abus, et en plus il y a un déficit au niveau du budget fédéral qui implique qu'on doit faire des coupes. Alors il y a une espèce de rationalisation qui est faite et la population vote ces différentes mesures qui fait que vous avez maintenant des gens qui ont des difficultés psychiatriques qu'ils ne peuvent même plus avoir la couverture de la rente AI ou de la réadaptation. Voilà. Donc, je donnerai juste, Roger a mis en évidence l'exemple au niveau de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a une véritable régression à ce niveau-là. On a la conviction que les gens, je veux dire, il y a une vraie séparation entre l'économie dominante et des niches ou une économie parallèle. La majorité de gens ont dit que la réadaptation prime sur la rente, mais en fait, les gens n'arrivent pas avec leurs moyens à trouver des moyens de vivre avec leur capacité, leurs compétences de travail. Donc là, il y a un vrai problème. Et il y a une régression sur la couverture sociale qui est très grave parce que, de mon point de vue, parce qu'il y a vraiment une stigmatisation que j'ai jamais vue auparavant. Donc là, il y a une vraie régression. Sur la question de l'institution, plus personne ne vit dans l'institution. Il y a quelques personnes, mais plus personne ne vit dans l'institution. C'est-à-dire les gens sont moins considérés comme irresponsables, dangereux et enfermants à vie. Ça, c'est un vrai progrès. C'est des milliers de gens qui ne vont plus vivre dans une institution de type totalitaire. La durée de séjour aujourd'hui, c'est 9 jours. On a diminué le nombre de lits, de 800 lits à 2 à 300 lits, etc., etc. Donc il y a des véritables, si vous voulez, avancées. Aujourd'hui, il y a une autre configuration du travail qui est fait avec les personnes souffrant de troubles psychiques. Et il y a des associations, il y a une trentaine d'associations qui travaillent sur le terrain dans le domaine de l'accueil, des services, des droits, du travail, du logement, etc., qui offrent des possibilités différenciées, modulées, dans lesquelles les gens, en guillemets, peuvent choisir. La liberté est un grand mot, hein, mais disons, il y a des possibilités qu'on ne trouvait pas actuelles. Voilà, en deux mots, et ce que je vois comme enjeu.
S'il vous plaît, pour apporter une réponse à cette question, moi j'ai une lecture un petit peu différente. Je crois qu'il faut replacer la question dans le contexte des années 70, pour le dire vite, qui a fait converger en fait un certain nombre de militants, je dirais de type révolutionnaire, qui ont saisi un certain nombre d'enjeux, mais adossé une vision d'une révolution sociétale ou sociale, et qui ont construit un certain nombre d'enjeux comme étant les produits de la société qu'ils combattaient, dont on doit constater qu'il a échoué, en tout cas à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, par rapport à la question que vous posiez de la recomposition des mouvements, se fait avec des gens qui réinvestissent ces problématiques, mais plus avec un arrière-fond d'approche révolutionnaire. Je pense qu'un élément symptomatique de ça, c'est que dans le domaine qui nous concerne, on a des gens qui vont mettre en avant, par exemple, au niveau de leurs associations, le nom de la maladie qu'ils ont. Donc, quelque part, il y a une acceptation, en quelque sorte, du produit social, non plus comme le produit d'une société qu'à combattre, mais comme quelque chose qui est là, ici et maintenant, et qui est revendiqué avec des revendications. Et pour moi, c'est l'origine de cette disjonction de certains types de... Et ce que je dis par rapport au mouvement de la psychiatrie est valable dans le nucléaire, dans l'antimilitarisme et dans un certain nombre d'autres mouvements où effectivement il y avait une convergence qui n'existe plus que partiellement.
Peut-être je vais prendre la parole, parce qu'il y avait ici, j'ai dit ici,
j'ai même levé la main avant monsieur.
Pas plus pour le pouvoir ici.
Alain, tout à l'heure, parlait de la quatrième, de la cinquième et de la sixième révision de l'AI, cette vision économique de la restriction et tout ça. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui s'est installé dans la société aussi et, par rapport au domaine de la psychiatrie, c'est que il y a un mouvement très profond, très vicieux, très pernicieux qui s'est mis, c'est-à-dire qu'il y a la Anna pour être un exemple concret de ça, mais ça s'est tellement radicalisé, c'est tellement ancré dans notre vie de tous les jours, c'est la médicalisation des problèmes sociétaux, sociétales. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui dysfonctionne, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau parce que X ou Y raison, c'est du domaine du psy. Voilà. Donc là, voilà, il y a cette radicalisation aussi qu'il faut prendre en compte et qui, monétairement parlant, rapporte énormément d'argent. Toujours sur cette notion de l'économie, et toujours sur cette notion de la maltraitance, parce que quand on dévie des problèmes sociétaux sur des problèmes personnels, c'est-à-dire qu'on culpabilise la personne, c'est elle qui est malade, c'est pas la société, c'est vous qui êtes malade, c'est vous qui n'allez pas, c'est vous. Donc il y a un mélange des genres là, et je considère ça comme de la maltraitance par rapport à, voilà, c'est, on mélange les genres, on mélange des petits bobos, et entre guillemets, hein, je mets 25 minutes guillemets ce que je suis en train de dire, mais on mélange tout ça, et donc là il y a déjà une banalisation qui frôle la maltraitance. Et puis, toujours par rapport à ça, c'est qu'effectivement, dans les institutions, les personnes n'y séjournent plus, mais les conditions, toujours économiques, qui sont imposées à ces institutions, et là je parle du personnel travaillant et tout ça, c'est-à-dire que la vision uniquement économique du traitement dans les institutions fait qu'il y a des telles restrictions. Roger, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, ça ne pouvait se faire que parce qu'il y avait des connivences, il y avait des prises de conscience qui se faisaient en intérieur. Donc, on pouvait jouer extérieur, intérieur, et modifier, mettre le feu aux camisoles de force. Cette chose-là, cette peur-là, parce qu'il y a de la maltraitance là aussi, la peur économique, la peur de la répression auprès du personnel ne permet plus au personnel de se rendre compte de ce qu'il fait. La trouille au ventre, donc j'applique ce qu'on me demande, parce que si je bouge une oreille, je suis viré le lendemain, et c'est moi qui suis de nouveau dans le processus, parce que j'aurai des problèmes aussi, etc., etc. Enfin, c'est une roue infernale. Et donc ça, effectivement, on ne donne plus les moyens non plus à l'institution de pouvoir réfléchir à ça. C'est à conscience. Et puis, pour juste finir, excusez-moi, je suis un tout petit peu long, mais après je ne demande plus la parole, par rapport au groupe des patients autonomes, effectivement il y a ce que une fois j'ai défini, mais le terme peut être péjoratif pour certains, j'en suis désolé, la Dupsy a donné des rejetons, comme l'arbre qui meurt, mais ça y repousse ailleurs. Effectivement, il y a plein d'associations qui se battent tous les jours pour pouvoir juste exister. Et on sait que certaines d'entre elles avaient des pelures de cacahuètes comme subvention pour pouvoir exister, et que toujours avec ce problème économique, etc., ces groupes font que, voilà, ils subsistent, ils survivent au lieu de... Et on n'est pas dans un esprit où effectivement... quand la personne peut être autonome, quand elle se prend en charge, quand elle a cette reconnaissance d'elle-même, commence à coûter moins cher à la société qu'un internement à Validé ou ailleurs. Voilà. Donc, effectivement, on est dans une régression, mais qu'on peut vraiment résumer en une seule parole, c'est qu'on n'a plus qu'une vision économique de la chose et plus rien d'autre. Et donc, effectivement, l'économie est maltraitante.
Alors moi j'ai une remarque et une question. La question c'est qu'aujourd'hui j'ai discuté avec une ancienne collègue psychologue qui m'a dit que les électrochocs recommencent. Alors j'aimerais savoir ce qu'il en est, etc. Et deuxième remarque par rapport à ce que tu dis sur le fait qu'il y a moins de lits. Moi j'ai fait toute une année de travail avec les gardiens de prison et il y a énormément de cas psychiatriques en prison maintenant. Donc il y a une partie des gens qui étaient peut-être à l'asile en résidence qui maintenant sont en prison et ils ne savent pas très bien quand ils sortiront. Donc là on voit bien aussi le lien entre...
Oui, rien n'est résolu. Ça n'a rien résolu. Si la psychiatrie avait changé, peut-être que ça aurait été un progrès d'avoir moins de lits, mais elle ne change pas. Elle est tout le temps en inadéquation avec les besoins. Donc, elle se fait force de dire « j'hospitalise en moyenne plus que 9 jours ». Mais il y a des gens qui ont besoin d'en rester 30, puis d'autres 2. C'est un concept qui est, je dirais, stupide. Je ne veux pas être méchant, mais c'est un peu stupide de voir les choses comme ça. Donc, il y a continuellement, à chaque fois qu'elle fait un progrès, ce n'est pas un progrès. Elle se déplace dans une inadéquation permanente. Alors, elle n'est jamais au même endroit, mais elle n'est pas là où elle doit être.
Vous pouvez m'en dire un peu plus?
C'est externalisé.
Il y en a à Lausanne. Les gens partent à Lausanne pour faire des électrochocs. Puis la question des électrochocs, ou bien tout traitement en soi, peut être discuté. Je me rappelle qu'à la Borde, qui était la communauté thérapeutique par excellence, où les gens y allaient de manière volontaire, sans hospitalisation, non volontaire, il y avait des électrochocs et vous aviez des patients qui réclamaient, c'est ce que le personnel et Guattari et toute l'équipe Ouri et compagnie nous expliquaient, c'est-à-dire que à partir du moment en guillemets où tu as le choix, les gens y réfléchissent. La question du traitement, pour moi ce qui est déterminant c'est le processus, c'est pas le traitement en soi, c'est la relation que tu établis avec une personne, que ce soit une relation individuelle, que ce soit une relation collective, et après, je veux dire, dans quelle mesure une personne a les possibilités de choisir ou de refuser, ou bien d'avoir...
C'est le cas maintenant, par rapport à ce qui se passe à Lausanne.
Alors, à mon avis, il n'y a plus d'électrochocs imposés. Mais il faudrait faire une enquête. Normalement, l'imposition du traitement, dans la loi, c'est dit qu'il faut qu'il y ait un danger vital. Hein? C'est la notion du danger vital. On impose un traitement, c'est la situation de la personne qui est dans le coma. Hein? On va lui imposer, on va pas lui demander, on va présumer qu'elle est d'accord d'être hospitalisée et qu'on lui fasse une opération, on impose un traitement. Eh bien, en psychiatrie, c'est la même chose. La loi dit... il faut qu'il y ait un danger vital. Et on est dans ce paradoxe où on hospitalise des personnes, ils sont en chambre d'isolement et ils n'ont pas de traitement parce qu'on estime qu'ils sont dangereux. Donc on est dans une espèce d'impasse, et le personnel le dit. Puisque la personne a une capacité de dialoguer, on ne va pas lui imposer un traitement. On va discuter avec elle. Mais forcément qu'au fur et à mesure de son espace de perte de liberté, puisqu'il est dans la chambre fermée, se noue ou dénoue, je veux dire, une relation qui fait que la personne soit elle va accepter pour finir un traitement, soit elle va rester. Moi, j'ai vu des personnes qui résistaient pendant un mois en chambre fermée, en disant « je ne veux pas de traitement » et le personnel, enfin le médecin disait « mais je suis désolé, si vous sortez, vous êtes toujours dangereux puisque vous avez fait un acte délictueux ». Vous voyez, on est toujours dans cette contrainte. Et à mon avis, la question du fait psychiatrique, eh bien, il faut la discuter. Est-ce que le trouble psychique existe ?
Est-ce que tu serais un peu pour les traitements forcés ?
Non. Est-ce que les troubles psychiques existent ? Moi, je ne suis pas pour les traitements forcés, sauf en cas de danger vital.
Ah bon ?
Mais c'est très rare. C'est très rare en psychiatrie qu'il y ait une situation de danger vital. Par contre, la question de la contrainte, entre guillemets, donc du fait psychiatrique, du trouble psychique, il faut la discuter. Elle est, les alternatives à ça, c'était les communautés thérapeutiques. Il y a une alternative en Suisse, c'est Soteria, c'est une communauté thérapeutique qui offre la possibilité d'une hospitalisation dans un espace sans traitement classique, médicamenteux, avec la notion de la chambre douce, c'est-à-dire le maximum de relations 24 heures sur 24 avec un personnel pour essayer de traverser la crise. Toute l'histoire de la psychiatrie, en guillemets de l'antipsychiatrie, c'est lié à l'histoire anglaise, avec Cooper et Lang, qui ont essayé de développer une conception qui est il faut que la personne traverse son trouble psychique, il est jusqu'au bout de cette dramatique expérience et des fois fantastique expérience pour renaître à autre chose. Et cette traversée-là, elle est douloureuse, elle est dure, elle prend du temps, etc. Moi, j'ai été à Soteria voir des jeunes patients qui avaient vécu l'hospitalisation classique et la Soteria. Eh bien, il y en a qui disaient, moi, je préfère la Soteria, c'est plus dur, c'est plus long, mais je comprends mon processus de crise. Et d'autres qui disaient, moi, je préfère la méthode traditionnelle, c'est plus court, c'est plus incisif, on te fait une injection, mais je sors plus rapidement. Et voilà. Je veux dire, pour moi, c'était... là, c'était une vraie interrogation dans quelle mesure une alternative, qui est toujours dans le cadre de la loi, est-ce qu'on arrivera un jour à éviter une contrainte dans le moment de crise, dans le moment où la personne sort d'elle, est hors d'elle. Est-ce qu'on arrivera à rencontrer l'autre d'une autre manière que l'hospitalisation volontaire ou le traitement? On y a bien réfléchi, mais moi, je n'ai pas vu d'expérience, ni en Europe, ni dans le monde, qui soit significative. Il y a quelques expériences sur lesquelles on peut s'inspirer, et il y a encore un long combat à mener pour créer des espaces nouveaux. J'encourage les jeunes professionnels, les proches, les patients à continuer ce combat pour créer des lieux qui accueillent la question du fait psychiatrique et de la crise d'une autre manière.
Est-ce qu'il y a, il y a l'évêque Lafra aussi en Allemagne?
Pardon.
Je m'excuse, mais il y a des gens qui ont levé la main.
Oui, oui. Il faut interrompre. Fais le gendarme.
Et que ça prend des proportions assez catastrophiques en Suisse et que c'est en train de s'exporter aussi dans d'autres pays. Ils ont un peu de retard sur la Suisse et la Suisse est vraiment à la pointe là-dessus. Je pense que c'est important de souligner ça parce qu'on n'a pas idée des proportions des gens qui sont en prison, qui sont, dont on les empêche de sortir par le fait qu'ils ont purgé leur peine sous des prétextes de complément dangerosité. Et le deuxième point que je voulais dire, c'était par rapport à l'intervention de monsieur avec la chemise bleue. En fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, et je pense que c'est important de dire que je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Parce que d'une part, j'ai trouvé un peu bizarre la manière dont vous avez posé cette affirmation de manière catégorique et quasiment définitive sur comment se passaient les mobilisations, comment se passaient les mouvements sociaux, qu'est-ce que c'était un échec, qu'est-ce que c'était un réussite. Et sur les 40 dernières années, j'ai envie de dire peut-être même plus, que moi, je n'accepte pas d'entendre ça parce que je suis aussi conscient que c'est plus on répète ça. Plus on entend ça, plus on croit. Et que la Suisse n'est pas un pays de paix sociale depuis toujours, que la confrontation entre les luttes plus ou moins radicales et plus ou moins récupérées ou plus ou moins assiduisées, elle existe depuis un moment, elle existe toujours, mais que poser la chose comme quoi ça marche plus, ça n'existera plus, c'est déjà du passé,
ça ne va pas.
Et je pense que c'est aussi. C'est la possibilité de voir les choses qui seraient différentes, et puis aussi, moins on se laisse cette possibilité-là, plus on a tendance à voir les choses comme confirmant ce qu'on croit. on va toujours réussir à confirmer qu'il y a un manque de radicalité en Suisse parce qu'on n'arrive pas à voir où elle est cette radicalité. Donc ouvrez les yeux un peu partout et vous la verrez. Vous verrez que sur la campagne sur le, contre la nouvelle proposition du DC sur. Pas sur l'asile, sur. Excusez-moi, sur. Sur le non-remboursement de l'IVG, il y a une forme de radicalité dans certaines actions qui ont été faites. Sur X et Y, c'est le sujet de forme de radicalité. Juste qu'on a tellement l'habitude, et c'est ce discours-là, monsieur la chemise bleue, qui est le plus on répète, plus on croit qu'il n'y a pas trop de solutions possibles, qu'il n'y a pas de radicalité possible. Parce qu'on ne voit même plus la radicalité qui existe.
Il y avait madame, monsieur et madame.
Je voulais juste dire, je ne me suis pas présentée, je suis en fait la responsable romande de l'association Fichex, dont le but est d'aider les personnes internées contre leur volonté dans les hôpitaux psychiatriques et qui subissent des contraintes sociales. Ça, c'était le but social qui a été fixé en 1981 et qui correspond tout à fait au titre de, du thème qui nous réunit aujourd'hui, psychiatrie et antipsychiatrie. Ce que je sens, c'est que ce thème, psychiatrie, antipsychiatrie, et autant on en a parlé, c'est un thème institutionnel, c'était un thème institutionnel quand il a surgi au moment où vous l'avez vécu. Moi, je n'ai pas connu ces moments-là, je ne peux pas les partager avec vous. J'ai l'impression d'être un peu comme en classe, et on me fait part d'une histoire que je n'ai pas vécue. Aujourd'hui, qu'est-ce que la psychiatrie? La psychiatrie, ce n'est plus l'institution, on l'a dit. Mais il y a eu un déplacement à travers le contenu de la psychiatrie, du contrôle policier au contrôle social. Et aujourd'hui, la psychiatrie, c'est le prétexte du contrôle social. Il y a l'AI, l'AI diminue, mais l'AI reste tout de même la porte d'entrée pour la société, pour contrôler les individus dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils pensent et dans ce qu'ils font. L'AI, c'est... Première porte. Ensuite, il y a les SPC, les prestations complémentaires. Ensuite, il suffit que vous ayez une famille et vous avez le SPMI qui est sur le dos. Et puis, vous avez le service de protection des mineurs. Ensuite, vous avez le service de tutelle des adultes. L'article qui est paru aujourd'hui dans le GHI sur le problème des logements et du placement des enfants de personnes qui ont des troubles psychiques qui n'arrivent pas à trouver de logement est un exemple typique du contrôle social que nous subissons tous pour des raisons économiques, parce que nous avons besoin économiquement, et les personnes qui souffrent de troubles psychiques ont besoin d'argent, donc elles passent par l'AI, et comme c'est pas assez, elles passent par le SPC, et comme elles ont des enfants, on leur met un contrôle par le SPMI, puis on met le contrôle par le STA, et puis on demande à ce que vous ayez à la consultation. Et à la consultation, on contrôle que vous y alliez toutes les semaines. Et puis si vous n'y allez pas toutes les semaines, on vous envoie un médecin de garde. Et puis on vérifie que vous prenez votre piqûre toutes les 4 semaines. Il y a un contrôle social sur les personnes qui ont des troubles psychiques qu'il n'y avait pas il y a 40 ans. Il y avait ceux qui étaient dans les institutions qui avaient un sort catastrophique. Aujourd'hui, il n'y a plus pas de sort catastrophique dans le sens où on l'entendait. Mais la vie intérieure des gens qui sont concernés par la psychiatrie aujourd'hui, elle est complètement détruite, dévalorisée, minimisée, et ils détruisent des générations. Parce que les enfants sont détruits comme les parents. Excusez-moi d'être aussi vindicative, mais c'est ça le contenu. Et c'est insidieux parce que personne ne s'en rend compte, sauf ceux qui sont dedans.
Excusez-moi. Alors, il y a monsieur, madame et monsieur.
Ah si, non, c'est bon.
Moi, je suis psychiatre et j'ai participé au début de ce qui a été raconté et je voudrais dire que je suis moins optimiste qu'Alain sur deux points sur l'évolution. La première, c'est que on a dit qu'une partie des gens qui étaient à l'hôpital psychiatrique ont passé en prison. Je suis tout à fait d'accord, je vous donne des exemples. Et puis, une autre partie, il y a quelque chose qui s'est mis à la place de la psychiatrie. La psychiatrie, aussi horrible qu'elle était, elle avait le fantasme du soin. Or, ce qui est en train de se mettre en place, c'est un fantasme éducatif. Et ça concerne, tu as parlé du six hommes, c'est-à-dire de ce qui est devenu par la suite la déficience mentale, le développement mental, etc., tout ça est sorti de la psychiatrie. et on est dans des institutions éducatives sur lesquelles il n'y a plus aucune loi dont on parle. Enfin, il y a des lois, mais c'est pas que je peux pas dire qui sont pas dans ce mouvement-là. Et il y a des gens, ça fait, alors je me rends pas compte de quelle proportion ça fait, mais toute une partie des problèmes qui étaient considérés comme des problèmes médicaux relevant du soin sont devenus des problèmes éducatifs, en partie sous pression des neurosciences et en partie sous pression des associations de parents, notamment qui ensuite de parents d'enfants, puis ensuite ça s'étend aux adultes aussi bien. Donc ça, je pense que c'est un élément où la société a changé et où c'est plus difficile de voir les choses que ce qu'était avant. Mais ça n'empêche pas qu'il reste des poches d'illégalité à l'intérieur. Alors moi, je n'ai pas de contact avec l'hôpital psychiatrique, j'en ai peu. Mais une des dernières fois où j'y suis allé, à Belle-Île, c'était il y a 3 ans, je crois, je me suis occupé pendant très longtemps d'enfants sourds dans mon activité institutionnelle. J'allais voir un ancien élève de l'école des sourds qui était hospitalisé. Et je suis arrivé dans un des pavillons où les infirmiers m'ont dit « Ah, bonjour docteur, etc. » Et puis ils m'ont dit « Écoutez, il va très mal maintenant, on va lui faire une injection. » Et ils étaient 3 avec un chariot, avec de quoi. Je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il a ? On comprend rien, qu'est-ce qui se passe, etc. » Donc je suis allé voir ce jeune homme. Je lui ai dit « Bonjour, comment ça va ? C'est difficile, etc. » On a communiqué. Il voulait aller faire pipi. Donc il avait tapé contre la porte, tapé. Le personnel était en réunion. Lui et voilà. Donc les choses se sont il y a 4 ans. Mais il n'y a pas longtemps, les lois avaient passé. Donc, bon. L'urgence vitale, j'en ai un autre exemple avec une personne que je suis maintenant qui est sortie de Belle-Île et qui, parce qu'elle était sous tutelle, a eu des traitements qui ont été imposés parce qu'il n'y avait aucune possibilité de se défendre au nom de l'urgence vitale. Donc les choses, il y a ce déplacement de population, mais il reste dans la psychiatrie cet aspect, dans la psychiatrie institutionnelle, cet aspect de violence qui, moi, me paraît persister.
Tout à fait. Il existe, on le voit, quand on va au CISOM, le CISOM n'a pas changé. Ils ont gardé exactement le même dispositif, les mêmes chambres. C'est un grand pavillon de Bel Air, hommes et femmes, fermé à guise. Il reste entre 30-40 personnes qui passent des fois des 2-3 ans, 4 ans. Ça, c'est vrai. De toute manière, ma conviction, c'est que ce lieu-là qui permet d'enfermer, qui est le lieu de l'enfermement, est de toute manière une violence faite à la personne. La question de l'alternative, c'est est-ce qu'on a des moyens est-ce qu'on a des moyens, et il faut être honnête, je veux dire, quand Castel a fait son travail, quand Foucault a fait son travail, ils ont bien montré qu'une révolution, Castel est modeste, il parle d'une métamorphose, une métamorphose de l'ensemble du système, c'est changer le dispositif institutionnel, c'est transformer la vision qu'on a de la psychiatrie. C'est développer des autres manières, en guillemets, de traiter. C'est modifier le statut de la personne et c'est changer le statut du personnel. C'est l'ensemble. La psychiatrie moderne, elle vient de l'ensemble de cette métamorphose qui s'est passée en 1800. C'est à la Révolution française que tous ces éléments, c'est pas un jour, hein, c'est 50 ans avant et 50 ans après. Ça a pris un siècle pour modifier la manière dont on traitait les gens qui avaient des troubles psychiques à l'époque, où on les considérait comme des gens possédés par le diable. Aujourd'hui, on a des explications qui ne sont que des hypothèses, il faut être honnête. Il n'y a pas de vérité scientifique sur la question du trouble psychique, il n'y a que des hypothèses. Donc tout le monde peut dire ce qu'il pense sur qu'est-ce que c'est qu'une psychose, qu'est-ce que c'est qu'une dépression, qu'est-ce que c'est, etc. Il y a une Bible, c'est le DSM-3, 4, 5, 6 ou un peu plus, qui régit toute la... Effectivement, Blaise l'a bien mis en évidence. Je veux dire, c'est extraordinaire ce travail que les Américains ont réussi à imposer, à faire que ça soit dominant. C'est que à chaque trouble, va être développée une approche thérapeutique, scientifique, médicamenté, codifié, etc., etc. Ce qui fait que c'est une manne pour la pharmacie absolument géniale, parce que c'est infini. La dernière chose, c'est qu'on n'a pas discuté de la critique qu'on a fait, nous, déjà dans les années 70, sur la sectorisation. Pour nous, la sectorisation était une réponse technocratique au vrai problème. Faut être clair. Le déplacement, ça reste pour nous. Actuellement, la psychiatrie est restée, et je suis tout à fait d'accord sur la question du contrôle social, hein. C'est la sectorisation, c'est ce développement-là d'une approche technocratique des problèmes qui vivent des gens souffrants, qu'on doit réfléchir et essayer de dépasser.
Il y avait madame, monsieur au fond et ici.
Je voulais t'aborder un peu. J'ai vu bien que je milite depuis une trentaine d'années, j'ai appris énormément de choses ce soir. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui se sont passées avant que j'ai personnellement commencé à militer dans les années 80. D'autre part, j'ai trouvé qu'il y a un tas d'aspects intéressants. Et pour revenir à ce que monsieur le psychiatre a dit par rapport au fantasme du soin, j'ai pensé que c'est très intéressant, c'est la population qui a le fantasme du soin. La population a le fantasme que la psychiatrie peut résoudre le problème de l'enfance. Et que la vraie alternative face à une psychiatrie très destructive qui existe aujourd'hui, c'est de ne pas s'engager dans la psychiatrie du tout. Et encore faudrait-il que la population dépasse ce fantasme. Ce fantasme va au point que, comme a très bien relevé monsieur, que même les patients eux-mêmes se forment des associations avec le nom de leur pathologie. Ils ont intégré l'idée qu'ils ont une pathologie déterminée, bien qu'ils ont tous vécu, qu'on leur a donné des diagnostics différents, que selon chez quel psy on va, on vous diagnostique d'une façon ou d'une autre. Mais ils ont quand même intégré qu'ils ont une pathologie et qu'elle a un nom. Ce qui est intéressant, j'avais jamais songé à ça par rapport au nom des associations. L'histoire de ne pas aller en psychiatrie, Madame de Marzano l'a très bien relevé, c'est une question financière. Quand vous êtes dépendant d'argent de l'État, vous mettez forcément un pied dans un engrenage qui risque fort de vous amener en psychiatrie. Donc derrière tout ça, il y a aussi la question de pouvoir se débrouiller sans l'État, sans quelqu'un qui vous surveille, qui vous diagnostique, qui décrète que vous êtes dangereux pour vous-même ou pour autrui, que vous êtes, etc., etc. La question de développer d'autres façons, Madame Kouliacher m'a demandé d'en parler, elle, qui est une militante de longue date, qui est, je ne sais pas si elle est dans les quatre associations que vous comptez, moi je compte bien plus d'associations que ça.
Il
y a les Sans-Voix, il y a là au moins cinq que je connais, sans parler de la nôtre, qui était la sixième. Mais enfin, en dehors de cela, Madame Kouliacher a ramené du Pays de Galles deux DVD très intéressantes sur, effectivement, des alternatives. Et sur d'autres façons de prendre en charge les patients qui évitent, pour commencer, les hospitalisations, qui évitent la neuroleptisation, que dans la mesure où les gens ont pris des neuroleptiques, arrivent à les sevrer. Mais il y a toute une philosophie et une façon de penser autre. C'est pas seulement la pratique qui est autre, c'est la philosophie qui est autre. Et je pense qu'il faudrait absolument que les gens voient ces DVD. Un, c'est sur une expérience suédoise qui s'appelle Healing Homes, c'est-à-dire foyer est un mauvais mot, parce que foyer fait penser à une institution. De fait, ce sont les demeures qui guérissent. Et ça, c'est une expérience suédoise qui est menée par des équipes d'ailleurs de soignants, ou des personnes qui ont été très très longtemps hospitalisées, traitées, neuroleptisées, etc., sont confiées à des familles, prises comme membres de la famille et qui guérissent relativement rapidement, ou justement, d'une part, ils sont intégrés dans les familles, et d'autre part, ils travaillent, et troisièmement, il y a toute une stratégie pour enlever les médicaments. Et ce qui est ces deux films ont été faits par un psychologue américain, un psychothérapeute, qui avait été à la recherche, parce qu'il avait fait un premier film que je n'ai pas vu, qui s'appelait Les ailes cassées, et apparemment des tas de gens lui ont dit, mais où peut-on trouver autre chose que notre horrible psychiatrie américaine? Et il s'était mis à la recherche d'alternatives, et il avait finalement décidé d'aller comme amateur filmer ce qui se passait et en Suède et en Finlande. Et il explique, il y a à la fois la voix du psychologue américain qui explique son étonnement, et puis l'étonnement de comment ça se passe aux États-Unis, et ça se passe ici un peu de la même façon, et les réactions des gens. Et je dois dire que par rapport aux familles, vous allez dire que c'est complètement banal, mais enfin, on demandait à la famille, c'était une famille de paysans, mais comment croyez-vous que vous arrivez à guérir les gens? Parce que ça faisait 20 ans qu'ils faisaient ça et qu'ils guérissaient les gens. Et la dame, elle réfléchit, elle dit, mais c'est une question intéressante. Peut-être c'est les vaches. Après, elle dit, non, mais c'est peut-être les chiens. Et puis, de fait, on se rendait compte, d'ailleurs, quand elle en parlait, elle parlait de ses amis. Et les enfants disaient que c'était des membres de la famille. C'était une toute autre approche. Mais il y avait des quantités de phrases comme ça intéressantes qui vraiment donnaient à réfléchir. L'autre système... ça s'appelait le open dialogue, le dialogue ouvert. Alors c'était aussi une équipe de soignants qui, en Laponie, où il y avait un très très fort taux de schizophrénie qu'ils ont apparemment réussi à éradiquer complètement, de sorte qu'il n'y a plus de schizophrène, étant donné le fait que la schizophrénie, on ne donne le nom de schizophrénie à des personnes psychotiques qu'à partir d'un moment où leurs symptômes ont duré au moins 6 mois et une année. Ils arrivent à guérir ces gens après une première décompensation, donc il n'y en a plus de schizophrénie. Et ça, c'est une façon autre. Leur théorie, c'est que la psychose n'est pas une maladie du cerveau, c'est une maladie de la relation. D'ailleurs, les deux équipes disaient que la psychose provenait d'un traumatisme, elle n'était pas du tout une maladie en tant que telle, ce qui ici paraît absolument énorme. Et que par conséquent, il fallait soigner d'une part la relation et d'autre part arriver à mettre des mots sur le traumatisme qui avait causé le truc. Et ils soignaient les gens dans leur famille, parce que c'était en général donc des gens qui étaient dans les familles encore, et par des systèmes de dialogue où tout le monde était au même niveau. Enfin, il faut l'avoir vu pour voir qu'il y a d'autres moyens. D'ailleurs, ces Finlandais étaient complètement estomaqués quand le psychiatre américain leur disait « Mais enfin, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre votre licence de pratique en ne donnant pas des neuroleptiques à des gens qui sont comme ça peut-être dangereux ?» Puis on leur regardait d'un air complètement ahuri en disant « Mais enfin, mais pourquoi on perdrait notre droit de pratique ?» On a des preuves, on réussit, on guérit les gens. Enfin, c'était très très étonnant. Et j'espère beaucoup, avec l'aide peut-être de M. Julien, n'est-ce pas, que nous pourrons faire voir ces vidéos simplement pour qu'on change de vision. Il faudrait évidemment surtout que les psychiatres le voient, parce que j'en ai parlé notamment à un psychiatre que je connais. C'est tellement loin de sa façon de concevoir les choses que ce n'est pas lui qui décide, qu'il n'avait même pas imaginé. Mais ils font un long travail, je pense, sur les soignants, sur les psychiatres, pour que ce genre de choses ne puissent plus. Hein. Mais même aussi sur les proches, sur les parents, pour qu'ils aient une autre vision de la chose.
Et alors, on passer à quelqu'un d'autre,
parce qu'il y a
encore des personnes qui ont levé la main. Et
déjà...
Ouais, alors il y a
monsieur
au fond, il y a
Val et Richard. Je vais essayer. Bref, je voulais juste dire d'où je parle. Je suis juriste et c'est la dernière chose qui m'a fait réagir. J'aurais bien aimé savoir d'où parlait monsieur.
Oui, monsieur le secrétaire général de Promène des Sables.
Merci. À vous, j'en ai discuté avec elle, on a parlé un petit peu, mais ce que disait madame tout à l'heure sur l'effet forcément négatif de la loi m'a frappé. Je partage, si j'ai bien compris son point de vue, le monsieur, à savoir qu'objectivement, il y a quand même eu quelques progrès sur les 20-30 dernières années, rien que du point de vue de la clarification, la qualification de ces questions-là. C'est pour ça aussi que j'ai posé la question de savoir si on peut essayer de s'exprimer sur l'internement ou sur le traitement forcé, qui sont des questions qui, du point de vue juridique, sont traitées de manière complètement différente. De ce point de vue-là, le nouveau droit fédéral de protection de l'adulte et des enfants, en particulier ce qu'on va appeler les PAFA à la place des PLAFA, est meilleur que ce qui existe aujourd'hui à Genève, parce qu'à Genève, on règle ça en deux articles de loi qui sont tout à fait obscurs, que les médecins sont à peu près libres d'appliquer comme ils veulent, où le contrôle juridique, la protection juridique des personnes qui sont visées par ces mesures est vraiment difficile à mettre en œuvre. Je ne sais plus qui avant a invoqué un cas où on mêle la question du besoin d'assistance de quelqu'un parce qu'on estime que ça porte atteinte à sa dignité de laisser livrer à lui-même, et donc on décide son internement, à celle d'un traitement forcé ensuite. J'ai aussi connu dans ma pratique un cas que je trouve hallucinant de quelqu'un qui a des problèmes somatiques. Il toussait, il crachait du sang en l'occurrence, il y a de quoi s'inquiéter. Mais on a envisagé, alors que le médecin qui l'a signalé aux autorités tutélaires disait que ça n'avait rien de psychiatrique et qu'un établissement psychiatrique qui ne répondait pas à ses besoins, il réclamait quand même le placement en milieu psychiatrique pour pouvoir le soumettre à des examens somatiques. Droit des choses extraordinaires. Mais objectivement, donc, le nouveau droit, par rapport au droit qui existe à Genève, sur la question du traitement forcé, que le droit actuel appelle mesure de contrainte, est meilleur en tout cas en ce sens-là, c'est qu'on va enfin savoir de quoi on parle. Après, les questions en aval.
Vous êtes naïf.
Merci. Je suis jeune, c'est ma qualité. J'aurai le temps de me déniaiser. D'ailleurs, la réaction du jeune homme là, tout à l'heure m'a fait amuser un peu, parce que moi je cherche pas la radicalité, je cherche que ça se passe un peu mieux, peu importe que ça se fasse par la révolution ou le réformisme, peu importe. Maintenant, les enjeux au-delà de la loi, et on verra bien ce que les gens en font, parce qu'une loi en elle-même ne résout jamais aucun problème, elle évite des complications en général. En clarifiant justement les choses, après, c'est ce qu'on en fait. Il y a des enjeux à différents niveaux, il y a des gens sans doute bien plus compétents que moi pour s'exprimer là-dessus ici, mais je vois déjà toute la question de savoir comment les établissements qui sont amenés à recevoir ces gens vont concrétiser à l'interne la manière de respecter le cadre légal qui, forcément, est général et abstrait. Contrairement à ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, le respect de la dignité humaine n'est pas formulé expressément dans ces lois parce que c'est une donnée cardinale de l'ordre juridique et qu'il n'y a pas besoin de le répéter à chaque fois qu'on fait une loi. C'est quelque chose qui est censé aller de soi, mais comme je l'ai dit aussi en aparté à la dame à laquelle j'ai posé une question tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans un établissement psychiatrique à Zurich à l'invitation d'une de mes profs de droit de l'Université de Fribourg, et je tourne pour un peu leur faire la leçon, je comparais le règlement par rapport au cadre légal, je tombais des nues de voir la méconnaissance des médecins, et là je me porte un petit peu en faux aussi de ce que cette même dame a dit tout à l'heure, du contexte dans lequel ils évoluaient. Au contraire, au lieu de se sentir couverts et libres de faire ce qu'ils voulaient, ils étaient complètement paumés en ne sachant pas ce qui était ou non admis, et ils n'avaient pas à l'interne des moyens de pouvoir s'auto-contrôler en quelque sorte, avant d'en venir à quelque chose qui dans mon raisonnement vient en aval encore, et qui est, à mon sens, quand j'entends les réactions ce soir, ce qui devrait peut-être discuter, si on parle de l'avenir, être discuté entre nous, entre les gens qui sont intéressés par ces questions, de la protection juridique individuelle ensuite qui peut être mise en œuvre par la personne visée par la mesure quand elle n'est pas satisfaite du règlement qui a été fait à l'interne de l'institution. Soit dit en passant, d'ailleurs, l'accroissement massif des cas, pour faire court, je m'exprime mal, psychiatriques en milieu carcéral, est dû à M. Blocher, qui, par un article de loi, a renversé complètement le système qui avait été prévu par le législateur fédéral en 2007, qui était justement celui de ne pas mettre en prison les personnes qui souffraient, de les traiter soit de manière ambulatoire, soit en milieu institutionnel, mais en dehors du cadre carcéral. Et M. Blocher, par une phrase, a complètement renversé le système, et ça a des conséquences sans doute pour des décennies maintenant. Et donc mon dernier point, c'est ça qui m'intéresse le plus, je vous avoue, puisque je suis juriste, c'est la manière de mettre en œuvre une protection juridique des personnes visées par ces mesures. Ça va au-delà de la question de la protection des assurés, parce que justement, c'est souvent hors du cadre d'un traitement ou d'une question de mesure d'assistance à invalidité, etc. Je l'ai dit également en aparté à la dame à qui j'ai posé une question tout à l'heure. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire l'analogie avec ce qui se passe dans le milieu de l'asile. On est aussi au niveau d'une population qui est particulièrement précarisée, en méconnaissance de ses droits, qui doit faire face à des décisions évidemment contraignantes, qui sont toujours des violences, quand elles sont contraignantes, des autorités, et qui également sont prises rapidement, exécutées rapidement, et qui font l'objet de délais de recours qui sont généralement très courts, même si, bien sûr, une détention peut toujours être mise en cause en tout temps. Et là, ben, je ne sais pas ce qui se passe, je serais curieux que peut-être des gens puissent me renseigner, mais je ne vois pas d'autre moyen que de faire que les associations de patients ou de gens qui s'intéressent à ces questions-là puissent entrer dans les établissements, entrer, alors apparemment il y a quelqu'un qui a dit quelque chose là-dessus, en contact avec les gens qui sont visés par ces mesures, peut-être qu'ils ont plus de temps à prendre que les médecins, les infirmiers eux-mêmes, parce qu'après il y a des questions budgétaires aussi, parce que pour respecter la dignité des gens, il faut avoir le temps de s'occuper d'eux. Je peux voir ce qui se passe en EMS, c'est assez édifiant. Voilà, qu'on puisse ensuite, que ces gens qui ont peut-être plus de temps à disposition puissent essayer de chercher à comprendre ce que veulent vraiment ces personnes qui généralement souffrent. Et puis, moi je m'étonne aussi de ce qu'il y a pu être dire sur le contrôle social. Le contrôle social est inhérent à toute société. Après, ça me semble plutôt sain, bien sûr qu'il y a des choses à discuter, sinon on ne serait pas là, que la société cherche à venir en aide des gens qui souffrent. Ça me semble en soi plutôt sain. Mais voilà, qu'ensuite il y ait des gens de bonne volonté, qui soit ont des compétences juridiques parce qu'ils ont de l'expérience. J'ai cru comprendre que monsieur, excusez-moi, Rolf, je ne sais plus comment, sans être juriste, a pu mettre en œuvre des procédures judiciaires avec succès. Voilà, d'aider ces gens à mettre en œuvre les voies de droit qui existent. Et puis j'en conclue là-dessus parce que j'ai été un peu plus long que je pensais. Après, il y a les tribunaux. Et les tribunaux, bah, comme partout, il y a des cons, il y a de tout, il y a des gens pressés ou pas, et il y a des juges qui font très bien leur boulot spontanément, et il y en a d'autres qui auront besoin qu'il y ait ces associations, ou ces avocats, ou ces gens, ou ces proches simplement, parce que les proches ont un droit de recours contre ces décisions de privation de liberté, qui aient le loisir d'essayer de leur faire entendre raison avec des arguments de bon sens, parce qu'encore une fois, le cadre légal est tellement large que c'est pas la loi elle-même qui va donner une solution au cas concret. C'est de mettre sous les nez du juge le côté humain du cas et lui faire comprendre où sont les enjeux pour la personne et comment ce qui existe dans le système social pourrait éventuellement répondre aux attentes de ces personnes.
Oui. Alors, c'est ça. Oui. Je voulais juste savoir si dans le champ scientifique, pour parler comme ça, de la psychiatrie, il y a des avis divergents, des conflits idéologiques, des conflits théoriques. Ou bien est-ce qu'on a affaire à un champ qui est très homogène?
Non. 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 Des batailles
telles. Je crois que la psychiatrie en tant que corps de théorie, c'est un ventre mou. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui existent, certaines sont très intéressantes, mais ça n'a pas une consistance et une direction extrêmement rationnelle et scientifique. Il y a des segments, il y a des moments, il y a des moments de scientificité, mais voilà. Je ne crois pas qu'on puisse dire c'est une science au sens de la physique.
Mais à la tête des institutions, si je ne parle pas des pratiques privées, il y a des corps théoriques qui organisent l'intervention des gens.
Et je pense que c'est des corps théoriques qui sont sans cesse en train de négocier avec une réalité sociale qui les dépasse ou qui ne sont pas cohérents par rapport à leur...
Mais il y a quand même une histoire à ça.
Ah, oui. Je pense qu'il y a un enjeu actuellement, je m'excuse, il y a un enjeu actuellement qui concerne la question de la validation des techniques. Alors, personnellement, je pense qu'on ne peut pas valider statistiquement une technique relationnelle. Hein. Mais je pense qu'il y a un désaccord fondamental là-dessus. Je pense qu'il y a des techniques actuellement qui prétendent pouvoir valider statistiquement leur démarche. Alors, qu'elles prétendent qu'elles peuvent valider, ça, personnellement, ça ne me dérange pas, même si c'est pris dans une stratégie thérapeutique, parce que c'est pris dans une stratégie thérapeutique où leur validation, la validation de ce qu'ils font, entre dans la thérapeutique. D'accord ? Simplement que ces techniques sont reprises au niveau économique comme étant des validations qui peuvent être utilisées dans le choix et l'orientation thérapeutique des institutions. Alors voilà, ça, c'est... J'aurais juste à dire, parce que ça prolonge un peu ce que je viens de dire, sur la question des soins. Moi, je pense que la dimension du soin, elle est absolument capitale. Et vous avez donné deux exemples, madame, sur les soins, qui sont des soins, au sens propre terme. J'aurais juste ajouté que, actuellement, les soins ne sont pas délégués en institution. sont pas délégués aux gens qui sont les plus en avant dans la formation, et c'est délégué à des catégories de personnel qui font un travail extrêmement important, mais qui sont des femmes, qui sont des étrangères, qui sont un personnel qui est peu payé, qui doit faire un effort extrêmement important au niveau relationnel et qui est peu soutenu. Hein. Et c'est une tendance générale dans les soins. Hein. Donc, si on veut augmenter la qualité des soins, il faudrait qualifier beaucoup plus ces personnes et augmenter le nombre de leur nombre.
Ouais. Alors, il y a encore deux personnes qui ont levé la main, et si ça ne vous va, vu que c'est déjà 30 minutes plus tard, qu'est-ce qu'on a prévu, on prend ces deux dernières interventions et ensuite quoi. Voilà, donc il y avait une personne là et une personne ici.
Moi, je veux dire que sur l'homogénéité ou pas de psychiatrique, je pense que effectivement, c'est. Et je pense d'ailleurs comme la physique ou d'autres disciplines, un champ disciplinaire qui se construit aussi avec des effets de mode et beaucoup d'argent. Et on a par exemple peu parlé de l'influence des entreprises pharmaceutiques sur la recherche en psychiatrie, sur quelle direction ça prenait, sur la manière dont on qualifiait certains troubles ou pas et comment on essayait de les soigner. Alors évidemment, j'y connais rien, mais je suis persuadée que ce serait assez intéressant et qu'en fouillant un peu cet aspect-là, on trouverait des choses aussi sur la direction que ça prend, qui est évidemment pas neutre ou catastrophique, je sais pas, mais qui est ni neutre, ni déterminée, ni forcément linéaire vers le progrès, mais qui est soumise aux aléas économico-sociaux de l'époque. Et l'autre point que je voulais dire, je ne sais plus qui, mais j'ai entendu mon avis dans la discussion, l'idée que, étant donné qu'il y a un certain nombre de patients qui sont regroupés en association sous la bannière de, entre guillemets, de leur maladie ou des maladies qu'on leur avait diagnostiquées plutôt, signifiait une certaine forme d'approbation par rapport à ces catégories-là. Je ne suis pas du tout d'accord, enfin je ne pense pas forcément que ce soit le cas en tout cas. On peut notamment prendre l'exemple, c'est un exemple que j'aime assez bien, enfin, que je trouve intéressant de ce point de vue-là, c'est celui des personnes trans, donc qui sont dans un parcours de transition d'identité de sexe ou de genre, et qui, pour faire ce parcours-là, sont soumises à tout un tas de. Enfin, c'est-à-dire que pour avoir accès à toutes les possibilités techniques et médicales pour réaliser ce parcours, donc les hormones, éventuellement une opération, etc., sont soumises à un traitement psychiatrique d'un minimum de 2 ans en France. Et ils se regroupent donc souvent en association, pour d'autres raisons, pour des raisons médicales, évidemment, pour d'autres revendications, pour des revendications purement médicales. Ils sont soumis à la psychiatrie, de fait, s'ils veulent réaliser ce parcours, en tout cas avec l'aide médicale. Ils adoptent donc ce diagnostic, si on peut l'appeler comme ça, qui est dans le DSM, de l'erreur, la transsexualité, et en étant extrêmement critique, en répétant à qui veut bien entendre qu'effectivement ils sont soumis à ce truc-là, qu'ils estiment ne pas avoir été psychiatrisés, qu'ils le font uniquement pour pouvoir avoir des hormones ou une opération. Et du coup, ça, c'est aussi une revendication. Enfin, ça veut dire que se regrouper sous l'appellation qu'on leur a ma foi diagnostiquée, c'est pas forcément une approbation de la pertinence de la psychiatrisation de ce, je sais pas comment il faut l'appeler, quoi, de ce trouble selon les médecins en tout cas. Et ça peut aussi être un outil de revendication et un outil politique qui en l'occurrence, il y a pas mal d'articles qui ont été écrits là-dessus, c'est pas sur cette critique-là interne, c'est voilà, une critique de gens de la psychiatrie qui pourtant ils font appel souvent parce qu'ils n'ont pas le choix, des fois aussi pour d'autres raisons, mais tout en faisant appel à la psychiatrie, on se regarde extrêmement critique. Ils savent très bien ce qu'ils veulent des endocrinologues et des chirurgiens, et là ils sont dans un rapport clair. Et avec les psychiatres, ben voilà, c'est aussi clair, mais ce qu'ils veulent, c'est l'autorisation d'avoir accès à la chirurgie. Voilà.
Il y a encore madame qui voulait parler, et puis on a dit qu'on terminait.
Je voudrais rendre hommage à June Spalding, si vous me permettez, quand elle l'aura dit.
Beaucoup. Ah, moi je voulais juste dire au sujet de. Des théories de l'unité des soins donnés dans les institutions. Il faut juste avoir dans la réalité de l'institution en 2012, c'est qu'on a d'abord des pavillons court séjour, des pavillons moyen séjour, des pavillons long séjour, et que le seul endroit où il peut y avoir une vision thérapeutique à long terme, c'est les longs séjours. Et qu'en court séjour et moyen séjour, c'est médicaments, médicaments, médicaments. Donc il n'y a pas de... Moi, c'est comme ça que je sens. Et puis l'autre chose, et ça a été dit d'une autre façon, c'est que la moitié du personnel des HUG, même chez les médecins actuellement, ne sont pas de langue française, n'ont pas de culture d'entreprise, n'ont pas de titre FMH. Ils sont très bons, mais ils ont un souci qui est un souci d'intégration personnelle. Et donc, ils suivent la voie du chef de clinique. Et encore faut-il que le chef de clinique soit lui-même de culture helvétique, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il y a une sorte de... Dans mon vécu, vous allez... Chef de clinique, oui, mais je pense à certains chefs de pavillon. Ils sont que... Non, je nommerai personne. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ligne thérapeutique déterminante. On ne la sent pas, en tout cas, dans la... Dans la thérapie, à long terme, dans les pavillons long terme, oui.
Ils sont suisses.
Là où c'est les longs séjours, oui.
Ils sont suisses.
Non, ça, je vais le dire. Et il y a le temps de mettre une vision à long terme.
Il faut faire attention à ça. Catégorie. On en souffre beaucoup. Oui, voilà.
Est-ce qu'on pourrait dire deux mots? Je voudrais juste qu'on se rappelle tous de June Spalding, que beaucoup d'entre vous ont connu, qui était une militante de très longue date, une des personnes actives à ADIPSI. C'est June Spalding qui a organisé des années durant les marches pour aller urbain, longtemps après que ADIPSI s'était auto-sabordé. Que June a essayé, c'est vrai, que June, c'est grâce à June d'ailleurs que le procès du professeur Tissot a été réouvert et que finalement ça s'est soldé par la prescription. C'était pas seulement qu'il a, il y avait prescription, au bout de 10 ans on ne pouvait plus le condamner. Elle avait réussi à mobiliser le professeur Bieville qui est venu contredire ce que les grands experts qui avaient soutenu Tissot avaient dit. Elle a fait un travail énorme aussi auprès des institutions internationales, auprès de la Fédération mondiale de la santé mentale. C'est une personne qui elle-même avait été psychiatrisée, mais qui avait créé un foyer chez elle, un halfway house. Elle accueillait des gens qui sortaient de Belle-Île. Elle avait des archives absolument phénoménales. Elle est malheureusement maintenant décédée. Je ne sais pas ce que ces archives sont devenues, mais June a été un des piliers. Et elle a essayé d'ailleurs de maintenir à Dupsy, Madame Boimont en a parlé, et ma foi, ça n'a pas été possible. Ce qui fait que d'autres associations se sont effectivement créées pour. Elles sont devenues. C'était surtout des associations qui étaient véritablement les patients et les proches de patients, effectivement, sans les professionnels de la santé.
Ça vaudrait peut-être la peine de nommer les quatre associations qui ont subsisté et qui.
L'association L'Expérience, l'association AETOC, les gens qui ont des. C'est incompréhensible. L'association ATB,
aider,
et l'association Le Rêve, les entendeurs de voix, qui font un travail assez extraordinaire, justement pour essayer de comprendre autrement la question des voix. Quatre associations sur Genève. Mais il y a d'autres associations qui défendent les droits des patients qui sont.
Ok, bien merci à tout le monde.